France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir une femme aux horizons multiples. Navigatrice, romancière, chroniqueuse, enseignante, ingénieure, militante, écologiste et j'en passe. Isabelle Autissier, première femme à avoir bouclé un tour du monde à la voile en solitaire, a décidé de choisir sa vie et de ne pas se laisser guider, si ce n'est par le vent et les vagues. Elle est depuis près de 10 ans à la tête de la branche française du WWF où elle s'inquiète pour la biodiversité et l'avenir de la planète. Ce n'est pas l'actualité de la semaine écoulée qui la fera changer d'avis. On l'a vu avec un nouvel épisode de pollution particulièrement précoce pour la saison. On parlera évidemment avec elle de ce qu'il faudrait faire pour limiter les dégâts. Le WWF a d'ailleurs plein de conseils très pratiques à nous donner pour une transition au quotidien. Également au sommaire de cette émission, préparée par Jimmy Bourquin et réalisée par Marianic Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec un détour au salon de l'agriculture où on le verra, les éleveurs tentent de séduire les flexitariens face à la baisse de la consommation de viande. Et puis, on finira, comme toujours, avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, rediffusion de son reportage sur les petites cantines, car l'initiative est en train de s'étendre. À 19h20, au téléphone sonne tout à l'heure, sans doute bientôt la fin du changement d'heure en Europe. Alors, quelle heure choisir? Heure d'été ou heure d'hiver? Et d'ailleurs, pourquoi la France est-elle sur ce fuseau horaire? On en parlera au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Isabelle Autissier.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter, bienvenue chez vous, j'ai envie de dire, parce que c'est une maison que vous connaissez bien. Vous y avez tenu chronique pendant
absolument,
des
pendant
années.
Longtemps, avec beaucoup de plaisir.
Présenté une émission également pendant des années. Une émission où il a été beaucoup question de la mer. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission, puisqu'on parlera de votre parcours. Mais d'abord, la semaine écoulée, la semaine qu'on vient de vivre, marquée par des records de température pour le mois de février, jusqu'à 28 dans le sud-ouest. Alors on sait que les climatologues nous disent qu'il ne faut pas confondre la météo et le climat. N'empêche que quand il y a des phénomènes comme ça extrêmes qui se multiplient, c'est quand même un signe du dérèglement climatique. On peut dire ça, Isabelle Autissier?
Oui, ils ont raison, les climatologues, il ne faut pas tout confondre. Mais effectivement, la multiplication des phénomènes exceptionnels, c'est ça qui doit nous alerter. Parce qu'une année de temps en temps, une année tous les 50 ans, même une année tous les 30 ans, bon, voilà, il y a eu des records, tout le monde en a connu. Par contre, qu'on ait des multiplications de grandes sécheresses et de grandes chaleurs l'été, que l'hiver, ma pauvre dame, il n'y a plus d'hiver. Hein,
c'est, il n'y a plus de saison,
voilà,
ma bonne dame,
il y a plus
d'une
de
manière
saison,
générale.
Tout ça est un signe parce qu'en fait, c'est à relier avec le fait que, comme l'effet de serre fait chauffer globalement la surface de la Terre, ça modifie les grands équilibres météorologiques, y compris par exemple le fameux jet stream hein, qui passe à très haute altitude, qui commence à avoir des sinuosités un petit peu plus marquées. Donc ça explique par exemple les très très grands froids du côté de l'Amérique du Nord et les moments extrêmement chauds comme on les a vécu la semaine dernière. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui des signes que oui, tout change très très vite et qu'on a une instabilité au fond qui se développe.
Vous pensez qu'on a vraiment maintenant pris conscience sérieusement du problème que ça pose ou pas?
Bah, apparemment jamais assez puisque on fait pas ce qu'il faut alors que depuis très longtemps aussi les climatologues, les scientifiques, le GIEC, les ONG comme le WWF et d'autres n'arrêtent pas non seulement d'alerter mais aussi de proposer tout un tas de solutions et puis ça va pas assez vite, on n'est pas à la hauteur. Alors, est-ce qu'on n'a pas assez d'imagination pour voir vraiment les catastrophes, faut bien le dire, hein, qui risquent de nous tomber dessus?
Est-ce qu'on entend ça, puis on ne prend pas véritablement conscience de la fragilité, peut-être que ça représente, c'est ça aussi?
Oui, mais parce que je crois que l'être humain s'est quand même toujours pensé comme tout puissant. En tout cas, peut-être pas à l'époque des cueilleurs-chasseurs, mais enfin, on n'en est plus là. Et on a toujours pensé qu'on pouvait dompter la nature, hein, que l'homme était une sorte de création supérieure et que on allait voir ce qu'on allait voir, en gros, qu'on allait pouvoir, et dans une certaine mesure d'ailleurs on l'a fait, on a régulé les fleuves, on a modifié l'eau, la terre, la mer, la biodiversité, tout ce qu'on veut. Donc on est très puissant et en même temps on est très fragile. Sur la biodiversité, c'est un peu, moi j'aime bien l'image du Mikado, hein, vous savez ce jeu avec les petits bouts de bois là qui s'enchevêtrent. Bah nous on est un petit peu le bout de bois qui est sur le dessus de la pile. Hein. Il y a toutes les autres espèces qui nous soutiennent, qui nous supportent, et que si petit à petit on enlève ces espèces, bah un jour c'est quand même nous qui allons tomber.
On dit petit à petit, mais c'est vrai que quand quand on s'arrête sur certains chiffres, à certains moments, ça fait froid dans le dos, la Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans.
C'est oui, ce sont les chiffres que vous disiez dans votre dernier rapport. Nous suivons très attentivement, et tous les deux ans, depuis 44 ans, nous publions un rapport sur l'état des vertébrés sauvages. Et là, depuis 44 ans, on a perdu 60%. C'est colossal. Enfin, on arrive vraiment à des effets d'échelle. C'est-à-dire que la disparition d'une espèce va entraîner la disparition d'une autre parce que, par exemple, les rapports proie-prédateurs ne vont plus exister correctement, parce que la nourriture va faire défaut, parce que... voilà, donc on a des phénomènes un peu de domino qui sont en train, malheureusement, de se mettre en place.
C'est grave, parce qu'en fait, on est tous interdépendants, y compris notre espèce à nous,
c'est ça ? Eh ben oui, c'est ça, c'est parfaitement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le Mikado. Nous avons besoin d'un climat stable, nous avons besoin d'un niveau des océans à peu près stable, nous avons besoin de courants qui soient à peu près les mêmes, de vents qui soient à peu près réguliers, nous avons besoin d'une biodiversité autour de nous qui nous nourrit. Et qui permet à l'homme finalement de survivre à tous les niveaux. Vous savez, par exemple, une respiration sur deux que vous prenez, elle vient du plancton marin qui émet de l'oxygène. Donc, si on dégrade tellement la mer qu'il y a moins de plancton marin, va falloir apprendre à respirer un peu moins.
Ça va peut-être
pas
être
si facile, hein. Alors, quand on le dit comme ça, on se dit non, c'est pas possible, Ben oui, mais c'est de la physique et de la chimie, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça.
Alors ça, c'est le constat, il est grave, c'est ce qu'on voit sur le long terme. Et puis après, il y a les contraintes du quotidien. Et parfois, ça fait qu'on arrête le peu de choses qu'on avait mis en place. Je pense, par exemple, à la hausse des taxes sur les carburants. Stoppé net par le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, alors là-dessus, on pourrait disserter longtemps. Je pense que cette taxe avait... Et d'ailleurs, nous avions alerté les pouvoirs publics, WWF. Cette taxe, elle n'avait pas bien été mise en place. C'est-à-dire que, effectivement, d'abord, il fallait que ce soit transparent et que l'argent collecté pour cette taxe aille à la diminution de l'empreinte carbone sur les transports en commun, sur l'isolation des maisons. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent, donc là, il y en avait. Et puis, effectivement, différencier, de manière à ce que, certainement, ceux qui polluent le plus, qui ont des très grosses voitures, des 4x4 inutiles ou des SUV inutiles, ou qui utilisent leur voiture quand il y a plein de transports en commun qui sont disponibles, enfin voilà, et que on permette aux gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution, de pas être autant frappé par ces taxes. Donc voilà. Après, des solutions sur tous les problèmes, il y en a. Et moi, j'en ai un peu assez qu'on oppose toujours la fameuse histoire de la fin du mois et de la fin du monde. Ça va exactement dans le même sens. Et quand on voit beaucoup de mesures environnementales, finalement, coûtent moins cher aux gens. Si vous commencez à manger un petit peu de viande, j'entendais dans votre entrée en matière qu'on allait parler du flexitarien.
On va en parler.
Bah, ça va vous coûter moins cher. Il y a beaucoup de choses. Si vous isolez votre maison, à terme, ça va vous coûter moins cher. Donc, faut vous aider au moment où vous l'isolez. Mais après, vous faites des économies, c'est clair.
Voilà, il faut changer les comportements. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir, Isabelle Autissier. Et on va voir à travers, effectivement, le résumé de l'actualité de la semaine que ces questions environnementales, elles nous rattrapent dans notre quotidien avec cet épisode de pollution qu'on a connu. Mais vous allez l'entendre, les consignes sont parfois assez difficilement suivies.
Regardez votre véhicule.
D'accord.
Vous avez pas de vignette critère.
Sincèrement, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ?
Mais votre véhicule est immatriculé à Paris.
C'est le véhicule de ma copine. Mais sincèrement, l'écologie, etc., franchement, c'est vraiment pas mon domaine.
C'est pas moi, c'est ma copine. Pas très au fait de la réglementation, cet automobiliste. Mais même quand on est censé être parfaitement informé, ça ne va pas de soi. Ainsi, la voiture de la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon, flashait à 150 km/h sur l'autoroute, alors que les panneaux indiquaient 110 maximum en raison de la pollution.
Je reconnais tout à fait que j'étais en tort, que j'étais prise par un timing très serré, que ça n'est pas une excuse. Donc j'attends de recevoir l'amende. Je la paierai bien sûr et je serai beaucoup plus vigilante.
Voilà qui est dit. En attendant, on a vraiment vécu une semaine exceptionnelle avec des records de température pour un mois de février. Plus de 21 degrés en moyenne, mercredi après-midi. Des vacances d'hiver qui se transforment en vacances d'été et des activités qui n'ont rien à voir avec la saison.
Pour nous, c'est une première pour un mois de février d'avoir des demandes d'éradication de nids de guêpes et nids de frelons. C'est jamais arrivé avant, on est vraiment 2 mois en avance sur la saison estivale.
des nids de guêpes en Franche-Comté et des feux de forêt et de végétation en Corse.
On est au mois de février. Mais c'est vrai que quand on se pose la question, eh bien on a la réponse. Malheureusement, c'est le changement climatique.
Greta Thunberg à Paris vendredi dernier, la jeune Suédoise est bien décidée à faire bouger tous les lycéens européens pour l'avenir de la planète.
We kids shouldn't have to do this.
Nous les enfants ne devrions pas avoir à faire ça.
I wish that the adults
J'aimerais que les adultes prennent leurs responsabilités. Mais si personne ne le fait,
no one's doing anything, we have
c'est à nous de le faire. Pas d'alliance avec les Verts ni avec les autres formations de gauche. Benoît Hamon n'a pas réussi à faire cause commune pour les européennes. Génération ira donc seule au combat.
Écoutez, on perd du temps avec ces histoires de négociations. J'ai proposé une votation citoyenne. Il faut poser la question aux partis qui n'ont pas voulu. J'ai pas vécu l'échec de la présidentielle pour replonger dans cette foire aux combines. Voilà.
Un autre record cette semaine, celui du nombre d'heures passées par un président au salon de l'agriculture.
Allez,
Monsieur le Président, des Gilets jaunes vous interpellent.
Bonjour, bah oui, mais il y a plein de gens qui m'interpellent. Allez, laissez dire bonjour à tout le monde. Merci à vous.
14 heures en tout pour le chef de l'État, record à battre.
Ford a réussi. C'est un constat d'échec. Pour l'État, pour nous, pour les salariés.
La fin des illusions pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, mais aussi pour les syndicats et les pouvoirs publics.
Ford ne se comporte pas comme devrait se comporter un grand groupe industriel digne. Ford doit payer.
Plus facile à dire qu'à obtenir. Cette impuissance, le plus célèbre des ouvriers de l'usine, Philippe Poutou, la dénonce sur France Inter. Pour lui, il y a toujours moyen d'agir.
Quand ils sont emmerdés par des casseurs dans les manifs, ils font des lois d'urgence. Mais pourquoi, quand ils sont emmerdés par des casseurs d'emploi, ils font pas des lois pour contraindre les multinationales?
Des lois pour les contraindre à payer et à rendre l'argent. Plusieurs centaines d'emplois en jeu et peu d'espoir d'en retrouver pour les intéresser.
52 ans, le monde du travail, hein, c'est un peu compromis pour moi. Même si M. Macron dit de traverser la rue, je pense que les portes seront fermées pour moi.
Emmanuel Macron qui met en garde à la veille de l'acte 16 des Gilets jaunes. Pour le chef de l'État, plus question de faire la différence entre les manifestants et les casseurs.
Lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire.
Des Gilets jaunes qui, samedi dernier, étaient pourtant bien décidés à ne rien lâcher.
De toute façon, Macron l'a écrit même dans sa lettre aux Français, il ne changera rien de sa ligne politique. Donc, tous le 16 mars sur les Champs-Élysées pour dire « Macron, ta politique, on n'en veut pas, c'est pas les pauvres gens qu'il faut taxer. »
À la semaine prochaine, on se reverra, oui, la semaine prochaine.
Et un grand merci à Jérôme Chélius pour cette mise en onde. Isabelle Autissier, voilà un petit résumé pas exhaustif de l'actualité de la semaine. Qu'en retenez-vous ?
Oh, moi, je vais retenir ce qui me concerne. Déjà, cet automobiliste qui dit qu'il ne sait pas de quoi on parle et qu'il n'est pas concerné, c'est une toute petite minorité quand même maintenant des gens. Je crois que partout, tout le monde constate des choses. Hein. On parlait du climat, évidemment, mais le fait, je ne sais pas moi, que quand on roule en voiture la nuit, on n'a plus un seul moustique sur son pare-brise, le fait qu'on voit plus d'oiseaux dans les cours des écoles ou dans les champs ou dans les villes ou nulle part. Enfin, voilà, il y a mille quand même petits signaux qui démontrent quand même à tous les gens qui sont de plus en plus conscients et qui demandent de plus en plus qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on peut le faire? Et ça, nous, on le sent en tant qu'organisation environnementale. Depuis quelques mois, il y a une vraie demande. On a vu l'affaire du siècle et son succès. On a vu. Voilà. Je crois que ça y est. On est en train, il est jamais trop tard pour bien faire, d'arriver dans le moment où les gens veulent vraiment se mobiliser.
On entendait aussi la jeune suédoise Greta Thunberg, qui mobilise la jeunesse européenne avec plus ou moins de succès selon les pays. En France, pour l'instant, c'est timide, on va dire. C'est important, cette mobilisation de la jeunesse. Ça, c'est une raison d'espérer?
Oui, ça, c'est très important et c'est une vraie raison d'espérer. D'abord, ils ont raison. C'est eux qui vont se taper l'essentiel des problèmes et ça va pas être drôle du tout. Donc, ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de nous mettre, si ce n'est en accusation, en tout cas en question, en nous disant mais qu'est-ce que vous avez fait et surtout qu'est-ce que vous faites maintenant. Je crois. Et puis, je crois que c'est important parce que il y a quand même des millions de citoyens dans ce pays et ailleurs qui ont des enfants. Et qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et quelle vie on est en train de leur préparer? Quelles instabilités économiques, politiques, sociales on est en train de leur préparer? Parce que, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, la disparition des insectes, c'est pas que la disparition des insectes, c'est un problème de faim dans le monde, et c'est un problème de bagarre pour la nourriture. Donc voilà. Donc ça, moi, je suis tout à fait solidaire de cette jeunesse. J'essaye, à mon niveau, de faire ce que je peux pour être, j'allais dire, pour être digne d'eux. Parce que je crois que c'est vraiment important.
Les élections européennes dans 3 mois, on entendait Benoît Hamon. Il se trouve que les écologistes, enfin les Verts, Yannick Jadot a décidé de rester sur sa ligne avec une liste autonome, de ne pas faire d'union. C'est une élection à la proportionnelle. Vous comprenez, vous, qu'il
Écoutez,
reste
moi,
sur cette
position ? Je ne vais pas me lancer dans le commentaire politique, ce n'est pas mon rôle de présidente d'ONG. Ce qu'on va faire, comme on l'a fait à la présidentielle d'ailleurs, c'est que on va inviter les candidats et les listes au WWF pour qu'ils nous disent quelle politique qu'ils veulent défendre quand ils seront députés européens. Et puis voilà, et puis je pense qu'à partir de là, c'est les gens qui s'intéressent à l'écologie, bah, ils pourront faire leur choix en toute connaissance.
En tout cas, il y a de plus en plus de listes qui se présentent comme favorables aux thèses concernant l'environnement. Tant mieux.
Bien sûr, tant mieux.
Il faut gagner la bataille des idées, c'est ça qui est important.
Je crois, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que quand on parle des pesticides, quand on parle du réchauffement climatique, je pense que la bataille des idées est en grande partie gagnée. Maintenant, il faut aller plus loin. Ça, maintenant, c'est la bataille des faits qu'il faut gagner. Ça, c'est un peu une paire de manches.
Un petit mot peut-être, Isabelle Autissier, sur le grand débat national auquel maintenant tout ou presque est renvoyé par le gouvernement, par l'exécutif. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder un petit peu les questions qui étaient posées concernant la transition écologique, parce qu'il y a plusieurs thèmes et il y a notamment ça. Et il y a des climatologues qui se sont dit, mais c'est quand même assez bizarre la façon dont les questions sont posées. La question numéro 1 du questionnaire, pour contribuer, c'est par exemple, quel est le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement, pollution de l'air, érosion du littoral, dérèglement climatique, biodiversité et disparition de certaines espèces, et il est précisé une seule réponse possible.
Ben non, mais si vous préférez la peste ou le choléra, merci de cocher. Non, c'est vrai que c'est une question.
C'est la climatologue Valérie Masson-Delmotte qui s'étonnait qu'on puisse demander aux gens de cocher une seule réponse sur un sujet pareil.
D'abord, je ne sais pas comment les gens peuvent répondre. Moi-même, je serais tout à fait incapable de répondre parce que ce sont des choses, j'allais dire, d'égale gravité, et que de toute façon, même si on faisait un listing en disant les Français à 65% préfèrent telle chose ou telle chose ou sont plus pris. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique? De toute façon, les politiques publiques, il faut qu'elles s'occupent et du climat, et de la biodiversité, et des pollutions, et des maladies qui sont provoquées par tout ça. C'est pas, l'État peut pas faire un choix en disant, oh ben on va s'occuper du climat, et puis la biodiversité, on verra dans 50 ans. C'est juste pas possible.
Et puis c'est scientifiquement pas très logique, effectivement. Comme promis, Isabelle Autissier, on va aller maintenant au Salon de l'agriculture, qui se tient Porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche soir. Un salon où les produits de l'élevage s'affichent toujours en bonne place, mais où il n'est plus interdit de limiter sa consommation de viande. L'interprofession bétail et viande recommande même le flexitarisme, avec ce slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux », le flexitarisme consistant à limiter sa consommation sans pour autant y renoncer totalement. C'est un reportage de Manuel Ruffez.
Vous l'avez peut-être déjà vu, cette pub, c'est l'histoire de Thomas.
Voici Thomas.
Thomas, il aime les séries en VO, le yoga, les jus détox, se déplace en vélo, contribue à préserver la planète, il aime tous les légumes et...
Et comme Thomas est flexitarien, il adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux. Aimer la viande, mangez-en mieux.
Il a fallu 2 ans de réflexion pour en arriver à cette campagne. C'est une réponse aux attentes des consommateurs, dont 96% déclarent aimer et consommer de la viande, soulignent les professionnels. Mais consommateurs désormais soucieux d'environnement et d'origine, on est en phase avec la société, souligne Dominique Langlois, le président de l'interprofession bétail et viande.
On est le reflet de ce qu'est le Thomas de notre film, qui est bien dans sa peau, qui vit, qui mange des légumes, qui mange de la viande, qui se fait plaisir, mais qui aussi se préoccupe de ce qu'il y a autour de lui, de l'environnement, de la durabilité et puis de l'avenir de la planète, parce que ça fait partie aussi des préoccupations du consommateur. Il veut se faire plaisir et quand il mange de la viande, il veut se faire plaisir avec de la bonne viande et de la bonne viande française.
Car il faut aussi le souligner, la consommation de viande a déjà beaucoup baissé en France pour passer à 320 grammes par personne et par semaine. Beaucoup d'éleveurs vivent mal de leur travail, alors c'est l'occasion de monter en qualité avec un objectif notamment de 40% en label rouge. Et ça, les éleveurs comme Maurice Huet qui s'occupe de brebis en Saône-et-Loire le comprennent très bien.
Il faut savoir se remettre en cause et comprendre que la société évolue, donc nous aussi on a évolué, on s'est remis en cause, enfin moi depuis 40 ans je me suis remis en cause tous les ans pratiquement parce que dans l'élevage c'est jamais pareil. Il faut comprendre que le consommateur il n'est plus le même, il faut s'adapter à ses demandes. L'idée c'est d'aller vers plus de signes de qualité, plus de proximité, plus de durabilité. Donc derrière, ça va amener aussi plus de valeur ajoutée pour l'éleveur, c'est le but recherché.
Plus de valeur ajoutée pour soutenir cette filière qui compte environ 500 000 emplois directs.
Un reportage Manuel Ruffez. Isabelle Autissier, vous êtes flexitarienne, vous aimez vous définir comme ça ?
Je suis tout à fait flexitarienne et c'est ce que le WWF d'ailleurs promotionne. Moi, j'ai rien contre les végétariens, au contraire, je sais très bien. Mais j'ai rien non plus contre les gens qui veulent de temps en temps manger de la viande. Nous, ce qu'on dit en gros, c'est une fois tous les 10 jours. Et on dit aussi attention aux poissons sauvages parce qu'on surpêche et les Français mangent beaucoup trop de poissons sauvages. Donc, limitons nos protéines animales. Mais mangeons bien. Qu'est-ce que ça veut dire manger bien ? Ça veut dire aller vers les élevages à l'herbe et pas nourris avec du soja pour lequel on coupe la forêt amazonienne. Donc, des petits élevages. Pas les élevages immenses avec des centaines de bêtes qui voient jamais la lumière du jour, et si possible en circuit court. Donc il y a maintenant pas mal, même dans les villes d'ailleurs, il y a pas mal de circuits où moi j'ai ça à La Rochelle, il y a un éleveur pas très loin de chez moi, une fois par mois, il a ses clients, il nous passe un coup de fil, on lui fait la commande, il nous livre, c'est très bon. C'est plutôt moins cher parce que c'est en circuit court, et moi je sais d'où ça vient, je sais que par exemple, comme la vache est à l'herbe, ça permet de garder des prairies. Et garder des prairies pour absorber le gaz carbonique et l'effet de serre, c'est très important. Donc voilà, donc on peut tout à fait, à mon avis, à mon sens, réduire de manière importante, hein, parce qu'aujourd'hui, on en mange beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, une fois tous les 10 jours de la viande rouge, et puis à ce moment-là, faites-vous plaisir, sachez d'où elle vient, allez voir l'éleveur dans ses champs, c'est super.
Et sur le poisson, il ne faut pas se l'interdire non plus, mais il faut faire attention.
Même chose sur le poisson, 2 fois par semaine, pas plus, parce que c'est vrai que nous, les Français, on mange 3 fois plus de poisson que la viande mondiale, donc quelque part, on va chercher du poisson ailleurs, donc soit c'est de la surpêche, soit malheureusement souvent aussi, c'est du poisson de filière interdite et de pêche illégale, et c'est encore pire.
Et comment on sait alors le poisson qu'on peut acheter ?
Alors, là, je crois que c'est vraiment une relation avec son producteur. D'abord, il y a un label que je pense qu'on peut conseiller parce que c'est simple, c'est MSC, Marine Stewardship Council. C'est un petit poisson comme ça dans un petit poisson blanc dans un carré bleu, qui veut dire que la pêcherie a été labellisée. Donc c'est déjà un signe, parce que sinon c'est compliqué de tout connaître sur la pêche, c'est déjà un signe de qualité.
C'est très important de donner des conseils pratiques, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez mis en place une application au WWF pour la vie de tous les jours. Hein.
Voilà, je vous conseille tous de télécharger, c'est gratuit, WAG, W-A-G, We Act For Good. En fait c'était pour répondre à la question qu'on n'arrête pas de nous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Et on montre très simplement, alors c'est un peu ludique, mais ça traite aussi bien de l'alimentation, des déplacements, de l'énergie, des déchets. On vient de lancer depuis 3 jours l'appli pour les enfants de 7 à 12 ans qui peuvent eux aussi faire des choses intelligemment pour la planète avec leurs parents ou autres. Donc voilà, donc c'est plein de conseils.
Des conseils de voilà.
C'est du conseil de la vie de tous les jours. C'est plein d'idées. C'est plein de.
Je mets un couvercle sur ma casserole. quand je fais cuire dans mon four, je mets plusieurs plats à la fois. Non, mais c'est frappé au coin du bon sens, quoi.
Voilà,
on va dire.
C'est des choses hyper simples. N'empêche que si on multiplie chacun ces choses-là, je sais bien qu'on nous dit des fois, il n'y a pas que les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais quand même, si on multiplie ces gestes-là, on prend d'abord une conscience des choses, et puis à la fin, si on est en France 66 millions à commencer à changer nos modes de vie, je peux vous dire que derrière, ça va suivre.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont cette envie aujourd'hui.
Bien sûr. Et il y a de plus en plus de gens, et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui changent leur façon de vivre, et dans tous ces petits gestes de la vie quotidienne, on voit bien plus de vélos en ville, on sait bien que les gens, le bio, ça a une croissance à 2 chiffres. Voilà, tout ça, c'est quand même des signaux forts et intéressants que voilà, qu'on n'est pas condamné à vivre comme on vivait dans les années 50 ou même 90.
Voilà, on peut apprendre des tas de choses, on peut apprendre à faire soi-même sa lessive, ses produits de beauté. Je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Sur
Merci.
Le site du WWF, Isabelle Autissier, on trouve aussi cette pétition pour une nature sans plastique. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oui, parce qu'évidemment, l'océan est aux premières loges de la pollution plastique. On a encore vu la semaine dernière des chercheurs qui disaient qu'ils étaient allés par plus de 10 000 mètres de fond et qui trouvaient des petites crevettes qui étaient bourrées de plastique à l'intérieur. Aujourd'hui, l'océan mondial est contaminé. Et franchement, c'est un crève-cœur. Moi, quand je navigue dans le Grand Nord et que je me balade sur une plage au nord du Spitzberg, c'est jonché de plastique et c'est vraiment abject. Et ça, c'est en train d'atteindre la biodiversité marine. Les oiseaux en meurent, les mammifères marins en meurent, les poissons en meurent. Ça modifie le plancton. Enfin, c'est un vrai
90%
sujet.
Des oiseaux marins du monde, on retrouve des fragments de plastique
mais oui,
dans leur organisme.
Le plastique, il faut savoir que non seulement c'est des occlusions intestinales, hein, ça bouche le circuit digestif, mais c'est des perturbateurs endocriniens, donc ça modifie la reproduction, l'alimentation, même le système d'orientation des oiseaux, parce que ça agit sur leur cerveau. Enfin, voilà, c'est grave. Mais pour nous aussi, hein, parce que vous prenez une poignée de sable, votre gamin, il joue sur la plage, il mange du sable, et ben, je peux vous dire qu'il mange du plastique. Et quand vous salez avec du sel de mer, je peux vous dire que vous salez avec du plastique. Donc, à un moment donné, c'est nous aussi qu'on est en train d'empoisonner. Alors que, dans une grande partie des cas, ce plastique peut être remplacé par autre chose, il peut être recyclable réellement, il peut être récupéré et il peut être retransformé. Donc, si déjà on mettait tout ça en place, on aurait déjà résolu une partie de nos problèmes.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un accord le plus qui regroupe le plus de pays possible pour.
Oui, alors le WWF prône donc cette pétition là, c'est pour qu'il y ait vraiment un traité contraignant et international sur ce sujet-là. On a été capable, par exemple, de le faire pour l'ozone, et sur l'ozone, on a gagné. C'est-à-dire que on a dit, on arrête de balancer dans l'atmosphère des produits qui vont affaiblir la couche d'ozone. Et la couche d'ozone est en train de se reconstituer. Il a fallu quand même quelques dizaines d'années. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir le même type de démarche sur le plastique.
Quand les vérités sont trop lasses pour douter du temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place. Alors elle s'efface. Quand les vérités sont banales, elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour.
Mobilis in mobile, l'affaire Louis Trio, choix musical, signé Thierry Dupin pour une semaine en France.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
On va parler un petit peu de vous maintenant, Isabelle Autissier.
C'est vraiment un sujet intéressant.
Mais absolument, c'est un sujet toujours très intéressant de voir que quelqu'un qui aime la mer comme ça n'est pas né au bord de la mer déjà. Vous êtes
pas du tout Paris 12e.
Paris 12e, vous avez grandi un petit peu plus loin, Saint-Maur.
Saint-Maur, hein. voilà.
Mais en tout cas dans une grande maison. Avec un jardin, vous avez pu découvrir la nature quand vous étiez petite quand même. C'est
oui,
pas toujours évident.
Avec un grand-père qui adorait jardiner.
Toute une tribu dans cette maison.
Ouais.
D'abord toutes les frangines. Vous étiez 5, c'est ça. Les parents, grands-parents, une tante, 12 personnes en tout.
Ouais, c'était une. Ça se faisait plus déjà à cette époque-là de vivre 3 générations ensemble. C'était une histoire de famille, voilà. Mes grands-parents paternels avaient rejoint la tribu du côté maternel, et puis on était tous dans cette grande maison. Quand on est enfant, c'est génial.
C'est une richesse, hein, les grands-parents.
C'est une richesse incroyable de les avoir tous les jours, d'avoir ce mélange de générations, ce mélange de points de vue, parce qu'ils n'étaient pas toujours d'accord, même si ça se passait. Attention, ça se passait bien. Mais oui, je crois que quand on est petite, il y a une grande ouverture sur le monde. Et moi, je les remercie de m'avoir proposé plein de choses, ouvert à beaucoup de thématiques, beaucoup de à la mer, bien sûr, mais pas que.
Parce que alors la mer, parlons-en. C'était l'été en Bretagne, hein, près de Saint-Malo, Lancieux, c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
C'est là que vous avez commencé sur un dériveur.
C'était le truc de l'époque, hein, c'était les petits dériveurs en bois. Alors on les ponçait dans le garage parisien de Saint-Maur pendant tout l'hiver, et puis après flambeau neuf, on les tirait là-bas et on naviguait tout l'été.
Sinon, vous avez eu une adolescence quand même assez engagée, j'ai vu. Même, vous aviez quoi, 12 ans, 68, mais vos grandes sœurs, elles allaient aux manifs, hein.
Oui, j'avais des sœurs aînées qui étaient à l'âge d'aller aux manifs. Moi, j'étais un peu petite, je ne m'en rendais pas bien compte. Mais il faut se replacer à l'époque aussi, donc des suites de 68, les années 70. Le monde politique infusait beaucoup au sein de l'éducation nationale.
Il y avait des comités de lutte dans les lycées.
Il y avait ce qu'on appelait les comités de lutte. Et moi, j'étais... Comme beaucoup de gens de ma génération, je voulais à la fois la paix dans le monde, mais je voulais la liberté. Il y avait aussi la question des femmes qui commençait aussi à se faire jour. Donc voilà. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'avais la chance d'être une petite fille qui pouvait lire Le Monde quand elle rentrait à la maison le soir, ou même Le Figaro. Et donc je m'informais beaucoup et j'avais envie de faire quelque chose à mon niveau. Alors c'était peut-être très rêveur, c'était peut-être assez décalé, mais j'ai appris beaucoup de choses.
Après, il y a eu les études, Isabelle Autissier, vous avez fait agro à Rennes, spécialité halieutique, vous avez travaillé pour le comité des pêches de Bretagne, pour l'IFREMER, vous avez été enseignante à l'école maritime et aquacole de La Rochelle. La Rochelle, vous avez pris racine, je ne sais pas si on peut dire ça pour une navigatrice, prendre racine.
Oh, bah, quasiment, oui, puisque je suis arrivée en 80 à La Rochelle, donc maintenant je commence à avoir passé plus de temps là-bas que n'importe où ailleurs. Même s'il y a des épisodes, parce que je m'absente souvent, on va dire, de mon domicile. Mais j'ai bien aimé cette ville, ville moyenne au bord de la mer, agréable. Puis voilà, maintenant j'ai ma petite famille à moi, mes copains.
Son bateau surtout, hein. Je pense que c'est ça qui est quand même important. Premier bateau, il s'appelait Parole.
Oui, parce que c'est un bateau que j'ai fabriqué. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais pas beaucoup de sous. J'ai commencé à travailler et je rêvais de partir naviguer. Et le meilleur moyen à ce moment-là pour naviguer pas cher, c'était de fabriquer son bateau. Donc, avec mon petit copain de la POC, et ben voilà, on a pris un tas de tôles et puis un poste à soudure et puis on s'est lancé. Et c'était un moment d'ouverture, de discussion, de débat. Il y avait plein de gens comme moi qui faisaient des bateaux dans tous les coins de La Rochelle et on n'arrêtait pas de discuter. Et je me suis dit, ben voilà, ce bateau, c'est le symbole de ça. C'est le symbole de l'échange et de la parole.
Et puis un beau jour, il y a eu le passage à la compétition. Ça ne s'est pas fait très tôt. Hein. Ça s'est fait, vous aviez quoi, plus de 30 ans.
Oui.
Vous vous êtes prise au jeu en 87. Il y a eu la mini Transat, de la course large, plusieurs tours du monde en solitaire. Vous êtes même, je ne sais pas s'il faut toujours le rappeler, la première femme à avoir bouclé un tour du monde. Box Challenge 90-91. Et du coup, vous aviez une façon bien à vous de répondre à certaines questions. Là, c'est en 91. On écoute.
Ça fait 3 ans que je cours, donc ça peut paraître excessif, mais je crois que j'en avais vraiment envie, donc il fallait que je le fasse.
Mais c'est pas un boulot de femme, ça, non?
Ouais, non, c'est pas un boulot de femme. D'ailleurs, je fais aussi beaucoup de tricot à côté.
C'est pas un boulot de femme. D'ailleurs, je fais aussi beaucoup de tricot à côté. Ça a le don de vous agacer, ce genre de questions?
Non, mais parce que la première fois qu'on me l'a dit, alors qu'est-ce que ça fait pour une femme, je savais pas quoi répondre. Je dis je sais pas. D'abord, je sais pas ce que ça fait pour un homme, donc je peux pas trop comparer. Et puis ça me paraissait complètement idiot comme question, quoi. Donc voilà. Après, j'ai pris le pli et maintenant, voilà, je sais quoi répondre. Mais oui, moi, je l'avais fait juste parce que j'avais envie de le faire, quoi. Et je voyais pas ce qu'il y avait de féminin et de masculin dans cette affaire.
Alors ça a été une aventure incroyable, évidemment. Magnifique. La voile. Il y a eu des hauts et des bas, on va dire.
Normal.
Normal. Le Vendée Globe 96-97, c'est évidemment la disparition du Canadien Jerry Roof, parce que vous êtes parti à sa recherche, vous ne l'avez pas retrouvé. En 99, là, dans la course Round Alone, c'est vous qui avez été secouru par Giovanni Soldini, Isabelle Autissier, souvenir
oui,
mémorable.
C'est des histoires de mer, quoi. C'est effectivement mon bateau sur une vague part à l'envers et reste à l'envers. Et moi, je suis coincée à l'intérieur.
Au milieu de nulle part, quand même.
Au milieu de nulle part, au fin fond du Pacifique, par 55 Sud. Donc, la première terre doit être à 7 ou 8 000 kilomètres, à peu près. Et Giovanni, qui était un copain, qui courait aussi, vient me chercher. Et c'est vrai que ça avait un côté assez magique de cette solidarité humaine, au fond, de deux êtres humains qui se retrouvent comme ça... un peu perdu, mais quand même ensemble.
Alors après, vous avez arrêté la compétition, mais vous avez continué à naviguer. Aujourd'hui, vous emmenez des tas de gens qui ne sont pas forcément du métier, on va dire, au départ. Et puis, vous écrivez. C'est venu comment, l'écriture, Isabelle Autissier? C'est d'abord des chroniques, et puis petit à petit...
Oui, ça a été ça. Bon, d'abord, je suis une grande lectrice. J'ai toujours lu depuis que je suis petite, et je continue à lire beaucoup. Je pense qu'il y a eu un moment donné aussi, en particulier quand j'ai arrêté la course au large, qui était très chronophage... l'envie de m'exprimer à mon tour. J'avais l'impression que j'avais accumulé dans ma boîte à trésors des tas
mais
de
vous
choses.
Aviez accumulé, c'est sûr.
Et voilà. Et l'écriture, au fond, c'était pour moi, c'était le média le plus simple et le plus naturel pour exprimer les choses. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de me lancer là-dedans.
Quoi. On a déjà des récits, 3 romans, bientôt un 4e, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Début mai. Oubliez Clara.
Voilà. Ah, bon, qui est Clara ?
On va attendre voilà, de les lire.
Je peux vous dire que ça se passe en Sibérie quand même.
C'est une piste. On lira ça quand ce livre sortira. Dans cette émission, Isabelle Autissier, on aime les bonnes nouvelles. Et il y a toujours cette rubrique qui arrive en fin d'émission, les bonnes ondes. Ce soir, c'est une rediffusion d'un reportage de Sandrine Houdin. Les petites cantines, c'est un réseau de cantines de quartier ouvertes à tous. L'objectif, c'est de cuisiner pour les autres, de manger avec les autres. Bref, de partager un repas et surtout un moment de convivialité. Tout est parti de Lyon, où s'est donc rendue Sandrine Houdin.
En entrée, il y aura une salade de concombre à faire. On fera aussi... Mesdames, s'il vous plaît, après, vous allez me reposer la question.
Bérénice, oui. Vous êtes la maîtresse de maison, c'est ça ?
Oui, ça veut dire que je coordonne un petit peu les opérations ici. A contrario, ça risquerait d'être un petit peu le bazar.
Tu veux qu'on les coupe comment ?
On fait des rondelles.
Maîtresse de maison, tout est dit.
Ici, on est un peu comme dans une maison. Par exemple, là-bas, vous voyez le vaisselier, voilà, les verres, les assiettes. Point cuisine, genre cuisine ouverte avec des plaques de cuisson, plein de casseroles. Et on a des grandes tables en bois, genre table de salle à manger. Le but, c'est que les gens mangent ensemble, comme chez mamie, quoi. Est-ce que vous pouvez commencer après par les oignons ?
L'ail aussi ?
L'ail aussi, ouais.
Quels sont vos deux prénoms, mesdames ?
Ben, moi, je m'appelle Odile.
Et Michel.
Et alors là, vous êtes préposée à quoi, là ?
Les lasagnes aux légumes, on va faire.
Nous, on s'est rencontrés ici. On serait passé à côté dans le quartier, on ne se serait pas vu, on ne serait pas connu.
Moi, je suis arrivée sur Lyon, je ne connaissais personne. Et ce n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée ici. Je suis en train d'éplucher les oignons et je pleure.
On est très vite très seul dans les grandes villes.
Ça, c'est vrai. Moi, j'habite en immeuble. Il y a des fois, je ne vois même pas ma voisine de 2-3 semaines.
Et vous, madame ?
Alors, moi, j'habite le quartier, j'habite à 2 rues.
Attention, les genoux !
Bah, moi, je suis venue par Sourbiel. Hein.
Oui, c'est moi qui ai fait connaître.
Oui, donc tout le monde, ça va
c'est
comme ça.
Mais c'est ça, mais c'est comme ça que ça marche. Au niveau de la vie de quartier, mais c'est génial. Dans le quartier, on ne connaissait pas un lieu comme ça où on cuisine ensemble et on mange ensemble et on rigole ensemble.
C'est un peu comme à la maison, quoi.
Mais c'est comme à la maison. Je pourrais passer ma vie ici.
Vous dites, on se marre en plus.
Mais bien sûr qu'on se marre.
Si on se tire la gueule quand on épluche les légumes, on reste chez soi tout seul. Hein. Bon, je suis allée au club du 3e âge, j'ai pris peur, je suis repartie en courant. C'était pas pour moi.
Ça peut être aussi, on se donne des conseils, on se donne des tuyaux. Il y a des copines qui sont venues faire les cartons chez toi.
Oui, voilà. Moi, cet hiver, j'avais un chauffage d'appoint qui marchait plus. Ben, c'est Paolo que j'ai connu aux petites cantines qui est venu, qui m'a nettoyé mon chauffage d'appoint.
Ce qui est génial en plus, c'est que je vois, là, il y a même des gamins là, qui s'y mettent.
Ah oui.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Mino ?
Là, je coupe les tomates en rondelles.
Et tu aimes ça, faire ça ?
Ouais. Je trouve que la cuisine, c'est comme jouer avec des légumes. Comme ça, je veux manger tout ce que j'ai cuisiné. Comme à la maison.
Comme à la maison. Mais tout le monde le dit, ça.
Ouais.
Ouais, je fais des courgettes. Un peu d'huile.
Ça sent bon.
C'est sûr que ça sent bon. On va mettre les poivrons, les tomates.
C'est Cyril qui s'en est occupé.
J'ai énormément de mal à m'exprimer avec les personnes que je connais pas. Je connais pas d'autres endroits où on peut discuter aussi facilement.
Vous trouvez aussi que la recette est super bonne.
Aussi.
Tout le monde a besoin de liens sociaux. Les gens, ils crèvent à petit feu les uns à côté des autres. Attends, je vais chercher du gros sel.
Étienne Touvenot, le cofondateur du concept.
Moi, je suis pas sûr qu'il y a 10 ou 20 ans, les petites cantines auraient fonctionné. Il y a de plus en plus de fractures, en fait. Les gens ont envie du lien, mais ils savent pas comment s'y prendre. Ben voilà, les petites cantines, c'est pour ça.
Attends.
Un jour, un jeune arrive avec une grand-mère, donc je pensais que c'était sa grand-mère. Puis il me dit non, c'est une dame que je viens de rencontrer dans la rue. Et la dame lui disait qu'elle avait plus de raison de vivre, qu'elle a quasiment se jeté du pont. Il dit non, ça vaut pas le coup et tout. Venez, on va manger aux petites cantines. C'est juste magnifique.
On peut accueillir aussi des migrants ou des gens dans la différence. Si vous les rencontrez pas ici, vous les rencontrez jamais.
Bérénice, on attend la béchamel, on l'a pas. Hein.
Donc en plus, c'est enrichissant.
Ah mais j'adore. On peut avoir tout à fait quelqu'un qui est avocat, côté d'un mec qui est clochard dans le quartier.
C'est ça la force des petites cantines.
Oui, un système qui casse les codes, quoi. Moi, j'avais jamais vu un système comme ça.
On fonctionne à prix libre. On a un prix d'équilibre qui est à 9 euros. Ceux qui ne peuvent pas y mettent moins et ceux qui peuvent plus mettent vraiment plus. À la fin du mois, ça s'équilibre.
C'est vraiment l'idée du siècle pour moi. Vraiment, mais vraiment.
Attraper des entrées, rester groupés. Voilà.
Alors nous, on n'est pas venus cuisiner, mais on va partager, on donnera un coup de main à la vaisselle. Voilà.
Mais ça vous gêne pas ?
Non, au contraire, c'est sympa.
La preuve.
Tu peux avoir les plats sales derrière toi, s'il te plaît, Marie-Paul. Oui.
Allez, moi je rince. Et Cyril essuie.
Tout dans la convivialité.
Même la plonge.
Même la plonge.
Reportage de Sandrine Houdin, des petites cantines, il y en a donc à Lyon et désormais à Lille, en attendant Annecy, Strasbourg et Nantes. Isabelle Autissier.
C'est l'humanité, ça s'appelle. Et c'est le beau côté de l'être humain, c'est l'amitié, la solidarité, la convivialité, tous ces mots-là qui veut dire simplement que on ouvre ses yeux, son cœur, son esprit aux autres et ça fait du bien.
Il y en a plein des initiatives comme ça. Il y en a plein. De plus en plus, en tout cas.
Et ça, c'est vraiment plein d'espoir à tous les niveaux. Moi, je me balade beaucoup en France et je vois plein de gens qui ont des tas d'initiatives, pas seulement écolo, mais aussi sociales, mais aussi culturelles, mais aussi des choses pas compliquées, vraiment pas compliquées, mais d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de penser que les autres sont dangereux.
Isabelle Autissier, le WWF, un petit mot, il est présent quoi, dans une centaine de pays?
Oui, c'est officiellement la plus grande organisation environnementale, donc on est à peu près présent dans un pays sur deux. On a une organisation qui a une soixantaine d'années, donc voilà. Nos trois grands mots, c'est alerter, c'est ce qu'on a fait au début de l'émission par exemple, c'est préserver ce qui peut l'être, et puis surtout c'est transformer. Si nous ne transformons pas nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, on va vraiment dans le mur et on va se faire à nous-mêmes très mal. Donc voilà, le WWF essaye d'être présent partout, mais en même temps, c'est génial de se battre, quoi. Moi, je suis tous les jours avec des gens qui ont 25, 30, 40 ans et il y a une énergie folle et il y a vraiment...
Il y a toujours besoin de bénévoles?
Oui, mais bien sûr. Bien sûr, toutes les associations, on a besoin de... nous, on n'est rien. Hein. Je veux dire, en France, il y a une centaine de salariés, ce qui est beaucoup pour une organisation environnementale, mais c'est rien du tout, quoi. Donc, si on n'a pas des gens qui relaient, qui vont avec nous, qui font avec nous, qui nous financent, bien sûr, ben, on n'y arrive pas.
Alors, présidente du WWF France, vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous faites un tas de choses, c'est absolument impressionnant. Isabelle Autissier, on peut faire tout ça en étant à plusieurs heures de Paris en train à La Rochelle, oui?
Bah oui, Paris-La Rochelle, maintenant, c'est un peu moins de 3 heures. Vous voyez, ce soir à minuit moins le quart, je suis chez moi. Et demain matin, je suis dans mon jardin parce que je cultive mes légumes et j'y tiens beaucoup. Donc c'est le printemps, il va falloir commencer à s'occuper de semer tout ça et ça me fait un bien fou.
Bon, on tâchera de vous laisser partir à temps tout à l'heure pour avoir le dernier train pour La Rochelle, mais vous allez tout de même rester avec nous pour le début du Téléphone Zone qui sera consacré au très vraisemblable abandon du changement d'heure. Ce sera intéressant d'avoir votre regard de navigatrice pour parler de la notion du temps, parce que effectivement, je pense que quand on est en mer, c'est pas tout à fait la même chose. On rappelle, Isabelle Autissier, votre prochain roman, Oubliez Clara, chez Stock. Ce sera donc au mois de mai. Je renvoie sinon à l'un de vos derniers livres, La Terre pour Horizon, pour ceux qui veulent mieux vous connaître. Vous parlez de vous, vous parlez de la planète. C'est publié aux éditions Habiter Autrement, La Planète. J'ai rien oublié.
Merci.
Merci beaucoup, Isabelle Autissier. Et à tout à l'heure donc pour le Téléphone Sonne.